Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Paul Andreu est membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il est d'abord connu pour son architecture, pour son œuvre architecturale commencée il y a 50 ans. Il a beaucoup parcouru le monde, dessiné, construit. Le désir ne l'a pas quitté, dit-il. Il lui faudrait 2 ou 3 vies de plus. L'architecte de Roissy, du musée maritime d'Osaka et de l'Opéra national de Pékin, lauréat de nombreux prix, en particulier du Grand Prix national d'architecture en 1977, à l'âge de 39 ans, ou encore du Grand Prix du Globe de Cristal en 2006, aurait-il encore quelque chose à prouver, quelque chose à transmettre? Ces dernières années, il mène en parallèle à ses projets d'architecte une activité d'écrivain. Il n'a pas tout à fait troqué l'équerre et le compas pour la plume, il l'a simplement ajouté à sa panoplie de voyageurs. Paul Andreu, merci d'être avec nous. Je voudrais rappeler que vous avez effectivement choisi l'écriture comme nouvelle ère d'exploration ces dernières années, après avoir écrit L'archipel de la mémoire, La maison, Lettre à un jeune architecte, Les eaux dormantes, Y avait-il des oiseaux? En plus, c'est une écriture qui présente de belles variations. Il y a des romans, il y a un peu des livres d'artistes, c'est un mélange quand même. Puis, Lettre aux jeunes architectes, c'était une adresse quand même. Vous venez de publier, et vous publiez là en ce moment, en 2013, chez Odile Jacob, un nouvel opus, Archimémoire, entre l'art et la science, la création. C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors je vous souhaite la bienvenue à Canal Académie.
Merci.
Alors, comment devient-on architecte, Paul Andreu? Peut-être serez-vous tenté de me dire comment vous êtes vous-même devenu architecte.
Parce que je n'ai pas suivi un chemin très droit, j'ai suivi une large courbe, disons, pour le devenir. En général, on décide de devenir architecte parce qu'on a envie de l'être quand on est jeune. Dès qu'on cesse de vouloir être pompier, aviateur, on arrive à des vœux plus sérieux et c'est en général là que ça se décide. Et moi, ça ne s'est pas du tout décidé parce que j'étais un bon élève en sciences. Et qu'un bon élève en sciences, souvent en France, il va dans les classes préparatoires, il fait les grandes écoles dans lesquelles il est reçu, et il s'interroge ensuite sur ce qu'il doit faire. C'est ce qui m'est arrivé. En fait, je suis scientifique de formation et j'adore ça. J'ai toujours essayé de garder le contact avec ce qui se passait dans les sciences.
Vous êtes polytechnicien pour
oui,
juste
voilà.
Situer un peu.
Ma gloire est d'avoir été reçu à Normale supérieure. Ma pratique a été de partir à l'école polytechnique pour tant de raisons, avec l'intention de faire de la physique. Et là, j'ai obliqué. Parce que j'ai découvert la peinture, parce que je me suis dit que c'était formidable, que j'allais quand même pas faire une vie de peintre, donc j'en étais pas capable. Et je me suis dit, par un raisonnement que seuls peuvent avoir des polytechniciens, qu'il y avait quelque chose entre la peinture et la science que je connaissais, c'était l'architecture. Alors c'est un raisonnement qui vaut ce qui vaut, à mon avis, rien du tout. Mais c'était le mien, et sur ces erreurs heureuses, comme disent les écritures, ont bâti des vies, quoi. Donc, je n'avais jamais vu un architecte de ma vie, ni pensé faire de l'architecture, et j'ai commencé à préparer, pendant mon service militaire, les beaux-arts. J'ai eu la chance d'y être reçu du premier coup, parce que je me serais peut-être découragé. Ensuite, j'ai passé une année difficile à essayer de comprendre de quoi il s'agissait, parce que je n'avais pas la moindre idée. Et puis ensuite, j'ai découvert que ça m'allait très bien, et donc j'ai en même temps fait des études d'ingénieur pour devenir ingénieur des ponts et des chaussées, et parallèlement, j'ai fait mes études au grand complet d'architecte, et j'ai exercé un peu comme ingénieur à l'École des
Beaux-Arts
de Paris. Et bon, j'ai exercé essentiellement dans ma vie comme architecte, aussi un peu comme ingénieur, mais enfin, j'ai jamais calculé de structure, par exemple. Mais je sais comment on fait, donc ça m'a toujours mis dans une disponibilité vis-à-vis des ingénieurs et du dialogue avec eux qui était simple.
Qui était sûrement voilà. Aisé dans...
Et puis après, si vous voulez, c'est comme toujours, après, on est guidé par le désir, on ne sait pas trop qu'on est guidé par le désir, on ne le dit pas, on est plus rationnel que ça.
Ou
quand
pudique.
On est jeune, on est pudique et rationnel, oui, vous avez raison, pudique. En fait, moi, je n'ai pas cessé d'avoir envie de choses, donc je n'avais pas la moindre idée quand j'étais jeune, voilà. À la fois dans l'importance l'importance des travaux que je dirigeais, dans la, comment dirais-je, extension géographique. Quelqu'un qui m'aurait dit que j'irais comme ça tous les mois en Chine pendant une douzaine d'années. Et moi, je le dis souvent, moi, la Chine, c'était une grande tache jaune dans les cartes de,
oui,
de la Blache.
Oui, vous l'écrivez magnifiquement, hein, ça.
Ouais, vous savez, celle qu'on portait comme ça, il y a des films où hein, on passait sous la voûte des cartes.
Et là, vous transportiez les cartes d'une salle à l'autre, sans imaginer qu'un jour vous iriez...
La Chine, c'était jaune et c'était grand, quoi, voilà. Mais enfin, déjà, il faut reconnaître que la géographie n'a pas été mon fort. Quand j'ai passé le bac, quand même, mon examen l'examinateur de géographie était un peu étonné de la position que je donnais aux villes de la Tunisie. Hein? Il semble que ce n'était pas extrêmement précis.
Depuis, vous avez vraiment parcouru le monde.
Oui, ça, oui, c'est... alors ça, on peut dire ça. On peut dire ça en long, en large. Et... j'allais un peu partout. Si vous voulez, moi, j'ai constamment cette idée qu'il ne faut pas s'arrêter, qu'il faut toujours avoir un horizon nouveau. Quoi. Donc, voici un et puis deux, c'est un horizon formidable quand même. Mais en même temps, s'enfermer même dans un pré de 3500 hectares, c'est s'enfermer dans un pré. Quoi. Donc, des gens avaient bien avant moi pensé à travailler à l'étranger dans ce domaine-là. Moi, je me suis appliqué à le faire vraiment à grande échelle et en cherchant chaque fois les nouvelles occasions, les pays avec lesquels on avait des relations naturelles et puis après ceux avec qui on n'en avait pas. Et puis quand, à partir d'un certain moment, je me suis dit aussi, ah oui, mais faire toujours des aéroports, c'est formidable, c'est magnifique, mais pourquoi pas autre chose, quoi. Et toute la bande de gens que je dirigeais, elle avait besoin d'être oxygénée autant que moi. Qui m'arrivait à moi, elle lui arrivait à elle aussi. On a toujours besoin d'être oxygéné. Donc à ce moment-là, on s'est dit un jour, oh bah ils sont en difficulté sur l'arche de la défense. Mais acceptons d'aller aider à quelque chose qui n'était pas mon projet.
Hein.
Plus que terminer, la mettre véritablement en œuvre à partir du projet qu'on avait fait, Spreckelsen, quoi.
Ouais, puisqu'il hein. était décédé bon, avant voyez, l'achèvement et... de cette œuvre.
Oui, mais on a commencé ensemble.
Et oui, enfin, vous étiez associé.
Ah oui, on a été associé. Mais qu'importe, on a été associé. Moi, j'ai terminé son œuvre ensuite et j'y ai rajouté ce qu'il fallait y rajouter. C'est pour ça qu'après aussi, je me suis autorisé mille autres choses. Écrire, c'était quelque chose dont j'avais toujours eu envie, mais qui peut-être n'était pas mûr. Hein, vous l'avez dit, j'ai quand même finalement une activité vraie dans ce domaine, et qui me... au point qu'elle me manque quand je l'interromps. Vous voyez, c'est ce qui est une preuve que, sans aller jusqu'à dire comme un auteur célèbre, bon qu'à ça, j'ai besoin de ça.
Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, là, à écrire à 74 ans, sur votre travail d'architecte, finalement ? Parce que archi-mémoire entre l'art et la science, la création, on peut supposer que vous aviez déjà pensé à écrire des mémoires ou qu'un éditeur vous l'avait proposé. Finalement, vous offrez là, disons, une belle présentation de ce que vous avez fait.
Ouais.
À la fois sur le plan architectural. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ou dire ou écrire ?
Je vais vous dire, d'abord, je ne voulais pas. Oui. Alors, bon, c'est pas une manière de présenter un livre. Si on dit oui. on présente un livre et puis je voulais pas l'écrire, alors personne va l'acheter, c'est une catastrophe.
Mon éditeur,
Odile Jacob, va me dire que je suis en dessous de tout, quoi.
Et Dieu sait que je lui dois beaucoup. Les curieux l'achèteront et ceux qui vous connaissent aussi.
À vrai dire, pourquoi j'avais cette réticence? Parce que je pense que c'est toujours à d'autres d'écrire les mémoires. Je trouve qu'on n'est pas qualifié pour écrire ces mémoires. Bon, que c'est pas très bien, qu'on devient à la limite le critique de soi-même, l'historien de soi-même. Il faut, quand on est quelque chose de soi-même, c'est jamais bien.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de distance.
Et puis alors, je dis pas qu'on m'a supplié, ce serait fort. Enfin, on me dit, mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu dis pas tes idées? Bon, en même temps, mes idées ne s'arrangent pas dans un traité. Je suis pas Durand qui a réglementé l'architecture. Les messages que j'aurais à passer aux gens, ils sont, bah, regardez, quoi. Voilà, regardez donc, voilà ce qui s'est passé. Et avec vous, il se passera d'autres choses. Mais donc, au fond, vraiment, c'est pas une mise en scène. Ce qui m'a décidé, c'est de déménager. J'ai déménagé mon agence. Je me suis retrouvé un jour avec beaucoup de choses autour de moi. J'en avais perdu énormément, mais il m'en restait pas mal. Et j'étais là un peu perdu en tirant un papier. Je devais ranger, mais je déteste ranger. Alors je tirais un papier, puis je le jetais à tour de bras. Et puis d'autres choses, je les lisais et je me suis dit, ben voilà. Ce livre existe, je vais simplement suivre cette pente. Alors, après, je l'ai écrit. Et écrire, ça n'est jamais correspondre à un programme qu'on s'est donné. Hein. Mais voilà, je l'ai écrit avec l'idée que c'était une série de choses, de faits. Je ne parlerai pas de moi de manière intime. Je ne citerai à peu près aucun nom propre. Et je ne ferai en particulier pas du name-dropping pour montrer que j'avais rencontré ou les grands de ce monde, ou les gens influents, ou les ci, ou les ça. Je ne me justifierai pas, mais je dirai mes idées, j'essaierai d'en rester à ce domaine des idées que j'aime. Et en même temps, à constamment, sur le ton d'une conversation comme ça très générale, parler d'une chose puis d'une autre, d'y revenir, de manière très libre, et de parler aussi de tout ce qui m'intéresse, tout ce qui m'a intéressé, tout ce que j'ai compris ou pas compris d'ailleurs, hein. Mais ces choses scientifiques qui me passionnent. Vous voyez, je crois comprendre, je ne comprends rien aux mathématiques vraies, si vous voulez, des grands mathématiciens. Mais je comprends mieux, je crois, leur état d'esprit que quand je faisais des sciences. Parce que je crois comprendre comment se structure leur recherche. Je pense qu'il n'y a qu'une recherche, en fait, partout. Et ça, j'ai envie de le dire, voilà, alors à ma manière, qui est plus poétique que savante. Et en me permettant, j'allais dire, tous les à peu près que se permet la poésie pour aller chercher plus loin quelque chose.
Le titre, c'est « Entre l'art et la science, la création ». Alors, quand j'ai commencé l'ouvrage, je me suis dit, bon, alors, je vais avoir l'art, la science et la création.
Oui.
pas du tout.
Ce serait trop simple.
Hein. Donc, on a justement cet effet de va-et-vient continuel de ce que vous avez voulu garder de votre mémoire et livrer au public par l'écriture. Et donc, on est assez surpris parce que je me disais, bon, mais alors, quelle est la vision de l'art de Paul Andreu exactement? Alors, c'est un peu disséminé partout. Votre goût pour les sciences. Tout à l'heure, vous évoquiez les mathématiques, mais il y a une page savoureuse sur les insectes. Bon, c'est à la fois du souvenir, il y a énormément d'humour dans cette présentation et cette mise à distance. En tout cas, ça parle essentiellement d'architecture, tout de même.
Oui, quand même. Enfin, c'est fidèle, voilà. Je suis fidèle au titre.
Et
oui.
Voilà, ça, c'est archi-mémoire, c'est vraiment archi-mémoire dans tous les sens du terme. Parce qu'au lieu de justement d'utiliser le fil chronologique, on a ce va-et-vient agréable dans le temps. Le temps et dans vos expériences et vos émotions. Effectivement, vous ne vous interdisez rien, les choses se sont livrées par-ci, par-là. Il y a un mot que vous aimez beaucoup, Paul Andreu, je crois qu'un de vos premiers livres s'intitulait « L'archipel de la mémoire ». Et vraiment, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre les deux complets, il y a longtemps que j'avais lu « L'archipel de la mémoire », mais c'est vraiment un voyage comme ça, d'îlot en îlot, mais à travers tout de même ce qui vous a le plus marqué, c'est ce que vous avez fait en architecture, c'est votre œuvre architecturale. Alors après Roissy, alors vous parlez de période, de temps en temps, il faut aller la dénicher, la période là où vous passez de la période de Roissy à la période chinoise. C'est tout en délicatesse et en humour. Mais je voudrais vous demander, avant de parler d'architecture, justement, quel lien faites-vous entre ou quels sont les passages que vous voyez entre l'art et la science?
C'est-à-dire que moi, je pense que tous ces domaines sont des domaines autonomes, tous les domaines artistiques sont autonomes, les domaines scientifiques sont aussi autonomes. Et donc je ne cherche pas du tout à les confondre et à les, comment dirais-je, à les rassembler dans un ensemble cohérent. Mais plutôt, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans une espèce de sous-structure, d'attitude, de désir, d'envie. Je pense qu'ils sont l'un pour l'autre des aliments. Et que comme tous les aliments, ils ont besoin d'être ingérés, transformés, qu'il en émerge autre chose de différent. Mais au fond, pour moi, c'est un peu la même attitude. Je ne crois pas trop à la découverte, je crois plus au modèle dans le domaine des sciences. J'ai l'impression que dans tous les domaines, la recherche, le travail, la création, elle rajoute quelque chose au monde. Voilà, c'est une prétention incroyable, mais chacun essaie de, comme je cite cette phrase de Pessoa, « Meilleure preuve que la littérature existe, c'est que la vie ne suffit pas ». Pour comprendre le monde, on y ajoute quelque chose qui est petit, minuscule, peut-être, mais que chaque fois c'est quelque chose qui est une tentative de le comprendre, mais qui en même temps est un objet qui n'est pas simplement quelque chose d'une espèce de découverte passive. Je me suis trouvé au milieu de la forêt, j'ai vu des arbres. Non, comment dirais-je, c'est un regard tellement fort et désirant qu'on envoie sur les choses qu'il les met dans un certain ordre, qu'on défait après, qu'on refait, qu'on reprend. Et puis on met ça dans des mémoires et ça reste. Et moi je suis très intéressé, obsédé par la mémoire et très admiratif de tout ce qu'on découvre en ce moment dans les sciences,
justement,
cerveau,
oui.
Je pense qu'on vit un moment, mais d'exception extraordinaire, quoi.
Ah, vous faites une confiance absolue à votre mémoire. C'est le révélateur de.
C'est-à-dire que
c'est
moi,
pas évident comme exercice.
Je ne lui fais pas confiance à ma mémoire. Je sais qu'elle crée des choses.
Oui, parce que c'est ce qu'on.
Je sais maintenant. Je m'en suis toujours un peu douté, mais je sais maintenant comment. Enfin, un peu mieux. J'entrevois comment effectivement elle fonctionne et comment elle se recrée tous les jours et comment finalement elle choisit. Et comment elle oublie. Et comment on ne peut se souvenir qu'en oubliant. Et comment on ne construit. Et donc c'est toute la construction, ça. Moi aussi, je fais pareil en construisant. Construire, c'est vouloir des tas de choses, en oublier un certain nombre et porter toute son attention sur d'autres, et peut-être changer en cours de route. Donc oui, ça, la mémoire m'intéresse beaucoup. Et en même temps, la courbe de la vie, cette espèce de, c'était l'archipel de la mémoire, c'était un peu ça. Ça, c'est l'eau qui monte et qui envahit, là, comme ça, comme un paysage karstique, mais par mouvement inverse. L'eau envahit tout. Et finalement, de ce qui était relié, l'eau cache. Et c'était relié par la base. Et l'eau cache la base. Et après, elle cache les îles, une à une, et puis voilà, puis ça se termine.
Alors ça, c'est l'archipel de la mémoire.
Oui, voilà. mais bon, c'est vrai, vous avez raison qu'il y a toujours cette espèce d'intérêt pour la mémoire, beaucoup plus collective dans ce cas-là, très individuelle, mais en même temps très collective, parce que beaucoup de ces mémoires en sciences, en architecture, elles sont collectives, elles ne vous appartiennent pas, on hérite.
Vous expliquez au fur et à mesure, hein, justement, votre démarche. Hein, vous avez choisi, comme vous le disiez, de ne pas vous justifier, quelques points comme ça, comme une charte que vous avez rappelée tout à l'heure au début de l'émission. Vous aviez écrit sur les aérogares.
J'ai fait beaucoup d'aérogares.
C'était un des articles
qui s'appelait voilà, les dessins et les mots.
Les dessins et les mots. Un des plaisirs du livre, justement, dans c'est un peu plus qu'une promenade dans votre œuvre architecturale, on va y revenir, c'est aussi d'avoir ponctué le livre de petits dessins.
Oui.
Enfin, petit n'est pas au sens...
on
est d'accord. mais de vignettes, mais effectivement, on n'est pas non plus dans le 4/4 de la publicité. Ce sont des vignettes comme des vignes miniatures. Parfois, il y a un dessin plein de pages, mais c'est très rare. Ouais. J'aime beaucoup les dessins, justement. Ça ne se fait plus ou pas, ou très peu, comme ça. Ça n'est pas en illustration, mais ça donne aussi une idée. Et on sent bien l'importance que ça a pour vous, ce travail de la main qui est la poursuite ou le continuum de votre pensée. Et on en a aussi des exemples, comme on en avait déjà dans la lettre que vous adressiez aux jeunes architectes. Et je vois que l'idée est reprise. C'est vraiment peut-être mieux qu'une photo, parce que si on se réfère... quand je lis un livre, je lis aussi avec parfois l'ordinateur sous la main. Et effectivement, on a là la saveur aussi de peut-être ce que c'est que la création, au sens... C'est pas qu'il y a un sens noble, mais au sens plein du terme.
Oui.
Et c'est sympathique d'avoir remis, enfin, je parle pour le lecteur que je suis, d'avoir fait ces ponctuations visuelles qui enrichissent vraiment la perception qu'on a de vous, de votre travail, si vous voulez.
C'est venu en plusieurs temps, ça. Parce que d'abord, j'avais dit, je ne mettrai aucune illustration. Parce que je pense que les illustrations tuent le texte. Je me rappelle toujours, j'ai eu une expérience que je cite toujours, j'ai lu Le Temps des cathédrales de Georges Duby dans la grande version avec les grandes images, et j'ai eu un mal de chien à lire le texte. Et ensuite, je l'ai lu, c'est pas un format de poche, mais c'est tout autre qui a été publié avec un encart de quelques photos. Et là, je n'ai plus eu aucun mal et j'ai pris un plaisir infini à lire ce texte. Donc ça m'est resté gravé dans la tête, c'est les images tuent le texte. Donc, dans la mesure où je voulais écrire, j'ai dit, il n'y aura pas d'image. Alors après, quand j'en ai eu écrit quelques vingtaines de pages, peut-être un peu plus, je l'ai fait lire à des amis qui m'ont dit, ça c'est bien gentil, c'est très bien, mais on a quand même, c'est une frustration infinie, on ne voit absolument pas, nous, de quoi il peut être question. Donc il faudrait quand même illustrer, ce n'est pas possible. Et là, je suis revenu effectivement à cette idée que j'avais développée dans la lettre, mais alors... Dans la lettre, c'est deux histoires qui se suivent.
Oui, tout à fait.
Et là,
on a fait une émission, je le dis aux auditeurs s'ils veulent.
Et là, c'est la même. C'est la même. J'ai pris des dessins qui sont tous des dessins de mes carnets.
Voilà.
Il y a peut-être, sur 100 dessins, il y en a peut-être 3 ou 4 qui ne sont pas de mes carnets, que j'ai refait exprès parce qu'ils manquaient. Donc, et mes carnets, c'est le moment vraiment de la recherche et de la création. C'est mon travail individuel et donc c'est ma plume, c'est la même. C'est des dessins à lire autant qu'à plus qu'encore qu'à regarder. Et avec mon éditeur, je me suis bien entendu pour qu'il soit dans un format, dans un gris, dans un qui soit celui du texte, c'est-à-dire qu'il ne rompt pas le texte, il vient au secours du texte. Ils débordent légèrement pour avoir produire la même. Ils ne sont pas enfermés par le texte. Ils sont pas. Vous voyez, il y a une espèce de jeu de liberté de l'un de l'autre. De tout ça est bien de la même plume. Et du coup, voilà. Je pense. Enfin, ce que vous me dites me fait plaisir. C'est ça ne coupe pas le texte. Et puis dernière chose que j'ai discuté avec mon éditeur, c'est bon. Il n'était pas question de faire des chapitres parce qu'une conversation ne se découpe pas en chapitres. Mais en même temps. Et je dois dire que j'ai eu avec Odile Jacob un interlocuteur formidable, quoi, de compréhension, de respect de ma liberté. Enfin, c'est formidable. Mais quand même, il fallait peut-être faire une espèce, peut-être simplement de repérage dans le texte pour que ça soit pas... D'où les pages pleines.
Oui.
Qui, alors, n'ont aucun rapport avec le texte. Alors, ceux-là, ils sont choisis, ces dessins-là, oui. pour... Comme ça, pour ce qui peuvent déclencher
de plaisir
ou de rêve. Ou de, voilà.
Alors ça, c'est très, très agréable. C'est une, pour ceux qui aiment les livres. Hein.
Ouais.
et puis, ça change aussi de ces très belles photographies d'architecture aussi. Hein,
ouais,
des architectures qui font rêver, effectivement. Bon, là, on est en prise directe avec votre plume. Alors, l'ouvrage parle, on va dire qu'il y a d'abord Roissy. Voilà,
à l'origine, il y a Roissy.
Voilà, donc c'est difficile de ne pas en parler. Ensuite vient l'opéra de Pékin, ou la période chinoise, si on peut l'appeler comme ça.
Elle dure toujours.
Et peut-être revenons à Roissy, qui vous a occupé 30 ans.
Un peu plus de 30 ans.
Aujourd'hui, vous aviez déjà écrit sur Roissy quand même.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut livrer de plus ?
Si vous voulez, ce que j'ai, il y a des choses que j'avais déjà écrites ailleurs,
oui,
c'est vrai. Elles sont là-dedans plus condensées.
Oui.
Elles sont dites avec plus de recul, à la fois avec plus de recul et une vue plus, comment dirais-je, déterminée. En expliquant comment les choses sont venues, sans me justifier, et en même temps portant un regard critique, par exemple, sur ce qui s'est passé, ensuite, ce qui s'est... Voilà. J'ai le sentiment d'avoir plus de liberté. Parce que c'est vrai que toute cette aventure de Roissy, c'était une aventure formidable. Enfin, j'ai commencé à 29 ans avec un bâtiment qui était le plus gros qu'on construisait en France à ce moment-là. C'était une erreur de casting, comme on dit. Comment est-ce qu'on m'a laissé faire ? Mais bon, il faut dire que je ne me suis pas attendu qu'on se pose trop de questions. Je cavalais tant que je pouvais. Mais il ne faut pas croire non plus que j'étais plein de moi-même. Et sûr, je doute dans ma vie et énormément. Et à ce moment-là, plus qu'à aucun autre, je n'avais aucune idée, comment dirais-je, surdimensionnée de moi-même, hein, je vous garantis. Simplement, c'était bien, c'était intéressant. Et puis au bout d'un moment, c'était un devoir, c'était une charge.
Ça, c'est votre côté polytechnicien aussi.
Oui, mais et des polytechniciens, comment dirais-je, pas de ceux... Moi, il y a un moment où je disais comme ça, sous forme de blague, que j'allais faire un club de défense des technocrates. Hein, parce que finalement, les grands technocrates, ils ont fait un monde dans lequel on vit. C'était des gens désintéressés en moyenne, des grandes gueules, des emmerdeurs, patentés, c'est vrai. On les a critiqués. Ils ont permis de faire un monde suffisamment bien fichu pour qu'on puisse les critiquer à loisir, sans souci. Alors, il y avait des polytechniciens, il y avait d'autres choses. Mais des polytechniciens, il y en a tous. Il y avait ceux-là, et puis il y a eu dans les générations suivantes ceux qui faisaient les courbes pour les investissements sur les équations intégro-différentielles permettant de jouer en bourse. Hein, il y a tout à Polytechnique. Hein. Et moi, je pense qu'ici, il y avait davantage de technocrates, disons de grands commis de l'État, ça serait pas plus mal. Voilà, on a besoin de ces intelligences-là.
Avant d'évoquer l'opéra de Pékin, ou au moment où vous allez parler de vos œuvres architecturales en Chine, vous parlez aussi de votre passion pour l'opéra, vous avez fait des décors de ballet, vous êtes autorisé.
Oui. En fait, c'est venu après.
Après cette période de Roissy qui a été la matrice quand même de votre.
Oui, c'était même après l'opéra. Parce que quand j'ai abordé l'opéra, je ne connaissais rien du tout. Rien du tout. Je n'étais pas un fervent de l'opéra. J'étais un petit peu, mais pas tellement. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand j'ai eu passé le premier tour, je suis allé voir Gall. Hein, et j'ai dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Et alors, ça a été merveilleux, parce qu'il a appelé ses directeurs techniques, Hugues leur a dit, ben, voilà un architecte qui s'est qualifié pour le premier tour, voilà, expliquez-lui tout ce qu'il a besoin de connaître.
Ouais.
Et c'était formidable, avec à la fois Modolo et Pache, ça a été extraordinaire. Bon,
ça compte,
et donc... Moi, ce qui m'a frappé, là, au fond, dans mes visites, c'est comment ils géraient le temps, ces gens-là. Comment ils arrivaient à gérer le temps. Alors, on dirait c'est ramener la musique et le spectacle au temps. Oui, quand même. Ils réglaient tout au dixième de seconde. Et je me suis dit, face à une telle précision, mais il faut que tout ce que je fais dans l'espace soit au moins aussi bien. Donc, j'ai fait ça et j'ai travaillé. On a fait l'opéra, on a fait l'Oriental Art Center, qui est aussi des salles, etc. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion comme ça de faire des décors, mais par des moyens comme ça, des tournées. Un à la Comédie Française avec Frédéric Wiseman. Celui-là, il est basique, c'est « Oh les beaux jours ». Alors « Les beaux jours », il y a acte 1, acte 2, elle est dans la butte jusqu'à la taille, elle est dans la butte jusqu'au cou. Bon, c'est passionnant à faire, c'est passionnant de rentrer de l'autre côté, quoi. D'avoir fait de la technique, des salles, d'avoir pensé aux vues, d'avoir pensé, et de se mettre d'un seul coup de l'autre côté. Et puis j'ai fait cette autre chose qui était encore plus formidable, qui était de faire le décor d'un ballet avec Nicolas Paul à l'opéra, quoi. Nicolas Paul, il est beaucoup plus jeune que moi, il est aussi, je pense, créatif qu'on peut l'être dans son domaine. Et on a fait ensemble quelque chose, quoi. Voilà, moi je trouvais ça formidable. À vrai dire, j'étais complètement hors de ce que sans doute on attendait de moi, parce qu'on attendait sans doute qu'un architecte fasse une construction, et je n'ai fait que des peintures, que des grandes choses qui tombaient l'une après l'autre comme ça, et qui, devant lequel l'effectif de la danse se réduisait petit à petit, selon les désirs de Nicolas. Enfin bon, c'était... Mais quelle expérience formidable quand vous êtes en plus à Garnier, à 2h du matin, et que ça répète, et que le théâtre est à vous, que vous pouvez sortir dedans, que vous pouvez sortir dans les galeries et partout. Enfin, c'est une joie indescriptible.
Vous avez pensé au Grand Théâtre de Bordeaux et à Garnier quand vous avez pensé votre opéra à Pékin ?
Oui, beaucoup à l'Opéra de Bordeaux, enfin le Grand Théâtre de Bordeaux, on l'appelait le Grand Théâtre de Bordeaux. Ouais. Maintenant, il l'appelle Opéra parce que ça fait plus chic, mais le Grand Théâtre. On allait au Grand Théâtre parce qu'il y avait les distributions des prix en particulier. Et puis j'étais allé voir des opérettes, des machins comme ça.
Ça venait de Bordeaux ?
Moi, j'ai vécu à Bordeaux pendant 20 ans. Et je trouvais toujours que c'était une construction magnifique, et j'ai compris en faisant ensuite de l'architecture combien elle était magnifique. À vrai dire, je crois que je la préfère à Garnier, mais Garnier adorait. Il a mis au deuxième balcon, là où je ne sais où, il a mis un buste de Louis. Et Garnier, j'ai mis un temps à comprendre Garnier, parce que j'étais pas comme Boulez prêt à dire qu'il fallait le démolir, mais pas loin, je le tarte à la crème, pas du tout, il y a une structure extraordinaire, une pensée technique dans les matériaux scéniques, dans la manière dont c'est construit. Et puis après, il y a une espèce de décoration surchargée. Mais en même temps, c'est l'opéra. Mais il y a cette espèce de mise en scène de l'époque, de réponse à cet état social et ce développement. Et moi, j'ai profité vraiment de ça. Je me considère comme, de ce point de vue-là, un peu le troisième étage de la fusée. Mais cette espèce d'augmentation progressive, cette dilatation de l'espace public qui précède et qui entoure l'espace de la salle, qui elle-même regarde l'espace scénique, et qui permet que l'opéra soit aussi autre chose qu'aller simplement voir un spectacle, ça j'en ai à Pékin, je l'ai dilaté au maximum, quoi. Et avec l'idée que ce faisant, on ouvrait à tout le monde, on ne se réduisait pas aux mélomanes, qu'on le donnait à tout l'ensemble de la population, et qu'en même temps, on faisait le public de demain. Parce que c'est le problème aussi, beaucoup, de faire des œuvres pour le public de demain, mais de faire aussi des ouvrages où les œuvres du public de demain pourront trouver
leur place être présentées au public. Le grand intérêt aussi de Archimémoire entre l'art, la science et la création, c'est d'avoir un peu plus que quelques pages, hein, quand même, parce qu'on ne peut pas parler de chapitres, hein, toujours des petits points qui, et des dessins qui permettent parfois les transitions. Il y a le musée maritime d'Osaka qui semble combiner justement vraiment science et art.
Oui,
c'est pour ça que je reviens.
C'est un ouvrage formidable.
Voilà. Et là, dans Archimémoire, entre l'art et la science, la création, Paul Andreu, vous revenez sur cette aventure, parce que là, c'est une de vos œuvres architecturales, peut-être pas très connue en France, je ne m'en rends pas compte.
Non, elle n'est pas connue.
Autant, je suppose maintenant, à l'œil ou en tête, une image de l'opéra de Pékin sans difficulté, et de Roissy, bien entendu, il y a 40 millions, de passagers par an. Enfin, c'est tellement hallucinant que c'est écrit dans Archimémoire, quelque part. Le musée maritime d'Osaka, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'un peu à part dans la complexité et dans le dépouillement. Enfin, est-ce que si vous pouviez parler de
ce projet, il faut l'imaginer.
Qui a été inauguré, en 2000, c'est juste pour situer
2000,
le.
Oui. Votre... Si vous voulez, c'est un projet, c'est un des rares projets qui est né d'une espèce de vision purement esthétique au départ. J'avais dans l'idée que ce serait bien, et je l'avais proposé dans un espèce de concours fantôme, de faire une demi-sphère posée sur l'eau, voilà, qui se reflèterait. Puis il se passerait des choses dedans, je ne sais pas quoi. Bon. Et puis on m'a demandé de faire un vice-maire d'Osaka m'a demandé de faire un bâtiment au bout d'une avenue dans un endroit. J'ai dit, mais attendez, oui, on pourrait faire un musée comme ça, de la mer. Je parle de mon hémisphère sur l'eau. Alors, il ne s'est rien passé pendant un temps. Et puis, il m'a rappelé, je ne sais plus combien de temps après, un an peut-être, quelque chose comme ça. Pour me dire, voilà, on va le faire. Alors, d'ailleurs, on a regardé.
C'était prévu, le bateau à l'intérieur?
Oui. Et puis tout s'est construit comme ça, hein, parce qu'effectivement ils avaient dit on fait un bateau, puis on le mettra à l'intérieur et puis on mettra trois trucs. À vrai dire, ils avaient prévu une certaine surface et moi je l'ai multiplié par trois, hein, en disant mais non, on va faire mieux, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et donc en gros, et pour le faire sur l'eau, j'ai obtenu des Japonais qui ont un peu frémi au départ, mais qui sont pleins d'une grande bonne volonté quand ils s'y mettent, vraiment. De construire le bâtiment sur la terre, c'était plus simple, et ensuite de recreuser la terre, de remettre une partie du remblai qu'ils avaient fait à l'eau, quoi. Donc c'est effectivement une demi-sphère de 60 mètres de diamètre, dans lequel une espèce d'hélice permet de descendre pour voir des choses à propos du port d'Osaka, de la mer. Ce sont des thèmes assez simples, assez populaires, mais dans une espèce de relation permanente entre un bâtiment qu'ils ont construit, qu'ils ont refait de l'époque Edo, exactement à l'identique, qui a navigué 6 mois.
Oui, ça c'est
et puis qui finalement, ses vacances étant terminées, s'est vu enfermé dans le bâtiment, qui est l'objet principal montré là-dedans.
Mais en même temps, le vaisseau est à l'intérieur.
Oui, et en même temps, on est à l'entrée du port. Tous les grands bateaux, 80% des grands bateaux qui rentrent dans le port d'Osaka, et c'est pas rien, passent là-devant.
C'est comme un phare.
Donc on est à la fois entre le passé et le présent, entre le... Oui, c'est une espèce... Et moi j'ai voulu cet équilibre, donc une boule absolument transparente. Compliqué à construire, grand travail d'ingénieur, de matériaux verriers. Alors comment la faire? En plus, c'est un problème connu que je n'ai pas inventé, c'est le problème de mettre un bateau dans une bouteille. Hein. Mettre un bateau dans une bouteille, c'est toujours compliqué.
La mise en œuvre de ce que vous aviez imaginé.
Ouais. Alors, si vous voulez, bon, en deux mots, on ne pouvait pas construire le bâtiment autour du bateau. On ne peut pas faire un chantier autour d'un objet quand même fragile. Laisser une ouverture pour rentrer le bateau, ça détruisait complètement la voûte que je voulais faire en acier et en verre. Elle ne pouvait être qu'un monolithe. Et donc finalement, j'ai dit, mais pourquoi on ne la fait pas d'un morceau, puis la cloche à fromage, quoi, vous voyez, pour faire image, tout le monde imaginera bien ce que c'est. Hein. Et après avoir un peu hésité, les ingénieurs ont dit oui. Et puis j'ai rajouté, et puis ça sera un tel bazar d'aller mettre le verre, vous pouvez pas mettre le... Donc on l'a construit dans un chantier naval, et dans le chantier naval, mettez donc le verre dessus. Alors là, on arrivait à un objet qui avoisinait les 1000 tonnes. Mais qu'importe, les grues maritimes en portent 8000. Et donc un beau matin, la grue a pris la coupole de 70 mètres en verre, et puis l'a baladée sur 32 km ou quelque chose comme ça, avec 3 hélicoptères qu'il a photographiés. Il s'est reposé un petit peu, et le lendemain matin, la grue l'a reprise, et l'a posée sur le bâtiment qui était fini. Et en 20 minutes, et c'est là l'extraordinaire qualité de construction japonaise, en 20 minutes, elle était descendue, les boulons de sécurité étaient mis.
20 minutes, on n'imagine pas, ouais, c'est tellement
20 minutes, rapide. C'est extraordinaire, quoi, extraordinaire. Et donc ça, c'est une aventure, et ce bâtiment a une aventure, quand on regarde les images, il y en a une dans le livre, justement. C'est la seule photo du livre, c'est une photo que j'ai un peu trafiquée pour qu'elle, graphiquement, elle aille avec le reste, mais c'est une photo. Ah oui, vous avez raison, il y en a une autre, c'est celle de la pomme coupée en morceaux. C'est un projet. Oui, ça, c'est un projet qui s'est pas construit malheureusement, et dont j'avais fait la maquette en coupant une pomme.
On va en parler après.
Oui.
Non, je montrais juste à Paul André le. En même temps, oui, je feuilletais le livre ses yeux. Voilà. Mais on voit effectivement cette coupole.
Elle est tenue comme ça par une grue qui va la laisser. Et alors il y a d'autres vues qui montrent comment elle arrive au-dessus de la construction. Elle la remplit. Et ensuite, je vous dis presque, il a fallu souder après, ça a pris du temps de la rimer complètement. Mais les boulons de sécurité étaient mis au bout de
20 minutes. La coupole descend lentement, nous sommes une centaine à regarder. Elle se pose et aussitôt des ouvriers la fixent, provisoirement, en attendant de pouvoir exécuter les attaches définitives. Il est 11h30 du matin, C'est à 6 heures que le transport final a commencé, quand la grue a soulevé la voûte de l'albarge qu'il avait transportée la veille sur la mer depuis le chantier naval où elle a été construite à 30 km environ. J'étais dans un des 3 hélicoptères qui faisaient des ronds autour d'elle, des photographes penchés au dehors. Merveilleux Japon.
Oui, merveilleux Japon.
Parce que quand j'ai lu ça, quand je l'ai vu, parce que c'est, même si j'avais vu des photos, c'est vrai que c'est là que celui qui n'est pas architecte prend la mesure vraiment du travail, quoi, de ce que vous avez fait. Est-ce que les projets comptent plus, les projets qui n'ont pas été retenus dans les concours, comptent plus que ce qui a été construit, que l'œuvre construite?
Non, ils comptent pas plus. Les projets qui n'ont pas été construits, C'est souvent des choses qui sont pas abouties, c'est des regrets, c'est des choses, j'allais vous dire presque au sens de la vie, avortées, quoi. Mm-hmm. Hein? Et tout se mettait en place pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Alors, il y en a qui étaient mauvais, on les regrette pas, mais il y en a qu'on sentait plein de potentiel et on les regrette, ceux-là, oui, on les regrette.
Il y en a que vous regrettez?
Oui, par exemple, moi je regrette beaucoup, j'avais fait un aéroport à Canton qui était sans doute le plus beau que j'avais conçu, le plus simple, et voilà. Et puis je ne l'ai pas eu, voilà. Et alors, il y a parfois des projets qui quand même sont consistants, vous voyez. C'est-à-dire qu'arriver à ce stade-là, au fond, se suffisent. C'est, sans minimiser tout le travail que fait Boulay pour arriver à son expression, c'est le cas de beaucoup d'architectures de Boulay, qui finalement ne vont pas à la réalisation, vont jusqu'à un grand souci de démonstration graphique, mais de fait n'affrontent pas. Mais il n'empêche que ce sont des œuvres. Hein, oui. Les œuvres de Boulay sont des œuvres. Et souvent, nos concours ne sont pas des œuvres. Elles sont des promesses, des possibilités, des tentatives d'œuvres.
Vous considérez le projet avorté du golfe de Kumiyama comme ça, comme un vous avez
oui, un
j'ai
peu
compris que ça avait eu de l'importance, non,
oui,
à la lecture
Kumiyama,
de l'ouvrage.
Oui, Kumiyama, ça en a eu, c'était quelque chose d'assez humble finalement, mais dans un paysage, et c'était une manière de se situer par rapport au paysage qui m'intéressait beaucoup.
D'ailleurs, à propos de paysage, vous en parlez vraiment tout au long du livre, hein.
Oui.
Et là effectivement, à ces pages-là, ça ressort considérablement.
Oui. Mais en particulier, si vous voulez, en Chine, quoi. C'est arrivé aussi à Roissy. À un moment, en allant plus vite que tout le monde, j'ai appelé les gens des eaux et forêts pour m'aider à Roissy, quoi, au départ, pour définir les choses. C'est bien quand on m'a dit, il faut s'occuper des plantations, vous n'y pensez pas. J'ai dit, attendez, on y travaille depuis 3 mois ou 6 mois. J'ai toujours envie de ça. J'ai pas du tout envie de mettre des pots de fleurs dans mes bâtiments. Ça, je trouve ça un peu indécent et ridicule, mais j'ai beaucoup envie du paysage. Et en Chine, alors il n'y a pas un projet important que j'ai fait où il n'y ait pas un jardin. Ça, il n'y en a pas, pratiquement pas. Je trouve que c'est important. J'aime beaucoup travailler avec les paysagistes. J'aime beaucoup travailler avec tous les gens qui ont envie de travailler et qui savent des choses que j'ignore.
Vous parlez beaucoup des rencontres, de l'inattendu, des rencontres justement entre des professionnels qui normalement n'auraient pas été amenés à se voir ou à se réunir. Et,
oui.
Et tout d'un coup, justement, c'est l'occasion de se confronter à d'autres regards.
Oui.
Quel regard portez-vous sur l'architecture de demain? Disons, qu'est-ce que vous en percevez? Parce que vous avez, même chose, c'est, tout le texte est ponctué quand même d'une adresse aux architectes, aux
oui.
plus jeunes quand même. C'est,
oui.
c'est un peu
oui,
aussi
oui.
la poursuite
oui, oui.
de l'être un jeune architecte. Mais sans jouer les prophètes, bien entendu, c'est pas là le propos. Qu'est-ce que vous percevez de cette architecture de demain dont vous dites qu'elle est déjà dans les revues, qu'elle est déjà
moi,
là?
Moi, je vais vous dire, je pense qu'elle commence à arriver. Comme de bien entendu que rien ne s'arrête. Je pense plusieurs choses, si vous voulez. La première, c'est je pense que, effectivement, quand on aura cessé de considérer l'écologie comme une espèce de punition ou comme une manière de prendre le pouvoir, qu'on verra que c'est simplement un devoir simple, évident, et on va s'apercevoir, on va arrêter de se fustiger, de se scarifier le visage, et on va voir que c'est une source d'inspiration formidable. Et de création formidable. Donc je pense que l'avenir est là, pas le mien, parce que moi, j'ai passé l'âge aux autres. Je pense aussi que je n'arrête pas de dire aux gens qui se méfient de leurs outils qu'un outil, c'est fait pour être utilisé, dépassé, contraint, que ces ordinateurs et ces images qu'ils produisent sont souvent des leurres. Tant mieux si on a tous ces outils, tant mieux si on peut être plus précis, Mais il y a un côté castrateur de ces outils, ou même alors, comme on ne contrôle pas les logiciels, comme on utilise des logiciels sans être rentré dedans, il y a finalement un académisme.
Vous parlez d'un nouvel académisme.
C'est un nouvel académisme aussi détestable que tous les académismes. Quoi. Hein? C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes formes, les mêmes réponses à des désirs qui, eux, étaient différents. Et puis alors un gaspillage, je reviens à mon premier point, finalement une espèce de débordement d'imagination, mais qui est aussi d'un nombrilisme extraordinaire. Moi, je lisais dans une revue qu'un record venait d'être battu, le bâtiment qui se tord sur lui-même, la tour, de plus de 90 degrés. Bon, alors quel intérêt ça peut avoir de faire ça? Enfin, s'il s'agit de mettre des gens au travail, s'il s'agit... Tu prêtes toutes les ambitions du monde. Je pense qu'il faut pas être pingue. Je pense qu'il faut dépenser de l'argent. Je pense, mais le gaspiller. Gaspiller les moyens. Gaspiller comme ça. Moi, je suis pour des essaims. Je suis pour toutes ces choses raffinées. Mais pas pour le potelage ridicule auquel on se livre par moment avec ces bâtiments jamais vus, ces icônes. Moi, je voudrais ramener tout le monde à l'essentiel, quoi.
Vous écrivez « J'ai la conviction, mais peut-être n'est-ce qu'un espoir qui cherche à échapper à la fragilité, que l'architecture à venir sera multiple et intelligente, qu'elle ne cherchera pas la rupture ou le rejet, mais l'approfondissement et la découverte, la critique et le dépassement. Ce qui me paraîtrait un signe encourageant serait que les jeunes architectes ne disent plus d'abord « je », mais « nous ». Nous, la nouvelle génération, bien sûr, nous, jeunes, pleins d'espoir et de force, d'ambition et de désir, conscients d'un nouveau devoir social et intellectuel, mais nous aussi dans la continuité de ce qui, progrès ou pas, a été vrai et bien, nous les architectes. Avant nous, c'était nous et déjà, et dans le changement qui nous attend et que nous espérons, ce sera nous encore, dans cette communauté affirmée, qu'il sera juste alors de dire « je » puisque nous sommes tous différents. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait considérer comme un chapitre sur l'architecture. C'est faire de l'architecture, c'est construire, entasser des matériaux. Il y a toutes les définitions que vous en donnez, avec vos convictions, vos doutes, ces espaces sans limites, ces objets mythiques, mais avec des limites quand même.
Et oui.
Donc ça, c'est pour inviter nos auditeurs à vous lire et surtout à lire ce qui est aussi peut-être une leçon de vie. C'est peut-être aussi un peu votre côté montaigne que vous citez en exergue au début du livre. Vous parlez d'infini, vous avez des pages qui s'adressent aussi au non-architecte, heureusement.
Oui, oui, moi, à vrai dire...
C'est un livre pour tout le monde.
Oui, oui, absolument pour, tout, absolument pour tout le monde. Les jeunes architectes en font leur profit s'ils le veulent, mais moi, je pense que l'architecture, c'est un bien commun.
Vous dites que c'est un... Je ne sais plus où c'est, mais que l'architecte doit penser qu'il le fait pour ceux qui vont y vivre, y habiter,
oui,
les traverser,
oui,
ces,
oui,
bâtiments.
Oui, oui,
et ça, c'est...
Et c'est à la fois, si vous voulez, c'est comme en physique ou en mathématiques, il y a une technique qui est incontournable. C'est pas vrai qu'on peut tout faire sans rien savoir. Hein. Mais en même temps, s'en remettre à simplement, comment dirais-je, le fait de savoir des choses précises ne suffit absolument pas. Il faut, si on fait des choses pour les gens et qu'on parle aux gens, comment dirais-je, il faut arriver à communier dans une chose très compliquée sans renoncer à aucune qualité. Il faut que tout le monde progresse en même temps. Voilà ma pensée. Il n'y a pas une manière de parler à sa concierge et une manière de parler au président. Il faut rassembler tout ça dans notre langue.
Alors écoutez, merci Paul Andreux d'être venu présenter à Canal Academy votre dernier livre, Archimémoire entre l'art et la science, la création, publié chez Odile Jacob. Merci de nous avoir ouvert la porte de l'archipel de votre mémoire. Et pour ceux qui voudraient en connaître les contours, eh bien je les invite vraiment à lire ce livre. Architecte ou non, c'est une belle promenade en architecture.
Eh bien, merci de votre lecture.
De rien. À bientôt, monsieur.
À bientôt.